Eh bien, bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans le florilège des arts, toujours en plein cœur de l'été, et nous continuons ces échanges. Comme il y a 2 semaines de cela, rappelez-vous, si vous n'avez pas entendu la précédente émission, je vous conseille vivement de l'écouter, c'est à la demande sur le site de Géopolitique Profonde, vous pouvez voir aussi par CD-ROM, vous pouvez faire un courrier. C'est une trilogie, une trinité d'émissions avec, eh bien, d'abord je remercie à la technique Claudia pour la réalisation cette émission. Je vous rappelle que les émissions sont préalablement enregistrées, donc n'appelez pas le standard ou ne vous précipitez pas si vous avez à envoyer un courriel. N'hésitez pas à l'envoyer parce que nous y répondrons avec mon invité directement. On vous répondra personnellement, que ce soit mon invité ou moi-même, si vous avez des questions à nous poser par rapport à ces émissions. Le thème de l'émission, l'Occident et la perte du temps long. Et puis, nous avons évoqué pendant une heure avec mon invité les méandres de la Bourgogne, du vin de Bourgogne, parce que bien sûr vous le connaissez, mon invité c'est l'auteur de La vie mystérieuse du vin, le propriétaire de Filovino, la cave qui est à côté de la Trinité à Paris, 8e. 9e, pardon. Pardon, oui, c'est moi qui habite le 8e. Exact, mais pas très loin non plus. Et donc, chevalier des arts et des lettres, Bruno Queneau. Bonjour Bruno.
Bonjour Nicolas.
Alors Bruno, on était sur la... On a fait un chemin remarquable du médiéval, on a même parlé un peu des Romains et des Gaulois, on a parlé des moines, on a parlé de la mystique aussi qui t'anime, on a beaucoup parlé de l'eau, et je disais à la fin de l'émission dernière, alors qu'on était sur la Bourgogne, sur l'énergie de l'eau dont tu parlais, qu'on doit retrouver dans le vin, hein, et si on ne retrouve pas cette eau dans le vin, tu donnais à la fin de l'émission dernière l'exemple de ce vigneron qui avait perdu le fil à un moment donné. Perdant le fil, il n'y avait plus justement de lien entre l'eau du puits et l'eau d'une vigne qui s'enracine si profondément dans la terre et va puiser l'eau des profondeurs, justement. Et dans les voyages que tu proposes chez Filovino, il y a ce voyage, j'ai envie de dire, qui sera, à mon avis, de plus en plus plébiscité par tes clients, et peut-être demain par certains auditeurs de Radio Courtoisie, en Bourgogne. Et en Bourgogne, ton voyage initiatique, parce que c'est un voyage initiatique, tu as parlé de Claude Vougeot dans l'émission précédente, par exemple, il passe d'abord par les profondeurs d'une forêt qui est la source de ce que est bien connu des bourguignons, qui s'appelle la vouivre.
Exactement.
Peux-tu nous en parler un peu de cette vouivre et de cette expérience mystique?
Alors évidemment, la vouivre, ça, on remonte à la nuit des temps. Hein. C'est pas les habitants locaux ont tout le temps célébré la vouivre. Hein. C'est quelque chose qui remonte au druidisme le plus ancien. Elle est évidemment, et les crues de Bourgogne, la Côte d'Or, est placée bizarrement sur cette vouivre. Au cœur, il y a le Clos de Vougeot. Clos de Vougeot, les gens oublient que ça vient du Clos de la Vouge, la vouivre. Voilà.
Ah, je ne savais pas.
Voilà. Donc c'est inscrit depuis la nuit des temps dans les noms de la Bourgogne. Quand on est parti...
La vouivre, à l'origine, c'est aussi un animal mystique.
C'est l'animal mystique.
Voilà, mythique,
qui est un mythe.
Une sorte de serpent.
Une espèce de serpent à dompter. Hein, à dompter. Et cette vouivre...
C'est un peu le serpent intérieur aussi.
C'est le serpent intérieur.
Comme celui de l'archange Michel.
Exactement. Et donc, on retrouve, de toute façon, toujours le même scénario, à peu près. Hein. Les moines clunisiens et cisterciens vont dompter la vouivre par le vin.
Par le vin.
Par le vin. C'est pour ça que ce vignoble... Quand il est tombé, pas en désuétude, mais qu'il était tellement terrassé par les vignobles de Nouveau Monde, les notamment le Bordelais aussi, ne pouvait que renaître. Et d'ailleurs, on voit que les prix ont continué de monter. Là. Enfin, c'est complètement fou, alors qu'il y a une crise du vin mondiale qui est épouvantable. Comme aucune, on n'en a jamais vu de la taille de celle-là. C'est un phénomène inconnu aujourd'hui. Et la Bourgogne continue de vivre son espèce de monde à part, en cavalier seul. Et d'ailleurs, aux Hospices de Beaune, je ne sais pas si vous avez suivi, si tu as suivi les ventes, mais 2022, il y avait le record de prix qui avait été atteint. Et donc 2023-2022, qui était un très grand millésime, hein, donc évidemment, bon, on prend toujours la barrique de Corton Charlemagne, parce que les Hospices de Beaune, c'est le plus grand blanc des Hospices de Beaune, ils n'ont pas de Montrachet, hein. Donc ce qui est pas le plus grand cru de la Bourgogne, hein, mais c'est le Montrachet, ou le Chevalier Montrachet, mais le Corton Charlemagne est quand même une très très grande cuvée, un grand cru, et c'est le plus grand cru des Hospices de Beaune. Et en 2022, il avait été vendu 122 000 euros la barrique, donc une pièce qui est, parce qu'on ne dit pas la barrique en Bourgogne, hein, on dit la pièce, c'est 300 bouteilles. Donc, je ne sais pas si vous voyez le prix que ça fait de la bouteille. Voilà, donc combien il va être vendu demain sur étagère, hein, donc, et là, en 2025, au mois de novembre, il a été vendu 154 000. Donc, vous voyez, les prix ont pris. Alors, il faut toujours relativiser les ventes des Hospices de Beaune.
20%, oui.
Voilà, les ventes des Hospices de Beaune donnent un peu le ton du marché. Bon, ça n'a pas été suivi d'essai par les vignerons, parce qu'ils entendent, ils voient tellement qu'il y a une crise mondiale du vin autour, qu'ils se disent, bon, faut peut-être pas blaguer. Mais en tout cas, ça donne le ton du succès de la Bourgogne, qui continue dans un marché qui est épouvantable. Et les grands crus de la Côte de Nuit, les grands vignerons n'ont rien à vendre. C'est-à-dire que les allocations sont, ils n'ont rien à vendre, quoi. C'est pas possible.
Ça sert à rien d'aller sur place.
Voilà,
vous n'aurez rien.
Donc, on est sur un monde. En fait, les vins de cette histoire, qui est unique, hein, qui va faire que les moines vont aller jusqu'à découper à la petite parcelle. Des fois, c'est des stades de foot. Il y a certaines parcelles, c'est des stades de foot, et de la taille d'un stade de foot. Et ils vont y découper le terroir avec une précision invraisemblable par rapport à la terre d'à côté. Et ça, c'est absolument unique au monde. C'est un Machu Picchu. C'est voilà, dans le monde du vin. Et donc, cette vibration de cette vivre-là, qui vibre, hein, vraiment, on peut la sentir à certains endroits. Hein.
Alors expliquez-nous un petit peu, pas trop, parce que rien n'est mieux, qu'il ne faut pas trahir le mystère. Il faut le vivre, mais en tout cas, il y a dans ce parcours initiatique que vous faites en Bourgogne, on débute par un sous-bois, c'est ça?
Voilà, en fait, les gens savaient qu'on allait aller à tel endroit. Ouais. On avait donné le nom d'un village médiéval, d'ailleurs. Donc, eux, ils se sont fixés là-dessus en se disant, tiens, on va visiter un village médiéval, c'est sympa, faire un peu de tourisme. Bon.
C'est ça.
Et donc, on a garé les voitures dans le village. Et puis après, on est parti à pied, on a traversé le village. Mais on s'est pas arrêté dans le village du tout. On a traversé la forêt, on a fait à peu près 800 mètres à pied. Donc, certains ont commencé à dire, mais on est venu faire de la randonnée. bon, c'est peut-être un peu cher pour une randonnée.
<C'est ça. rire>
Voilà. Et puis, et on arrive au bout, il y a un oratoire ancien qui date de l'époque médiévale et en fait qui était à côté d'un ermitage. En fait, hein, voilà, il y avait un ermitage à cet endroit. Et en fait, j'avais à peu près 3-4 minutes pour faire mon édito, hein, donc, qui était improvisé évidemment, parce que pas la peine d'écrire quoi que ce soit. Et en leur disant qu'on était à une forme de naissance de cette vouivre, hein, on n'était pas très loin de la naissance, mais j'avais 3-4 minutes maximum pour parler, parce qu'après je ne pouvais plus parler.
Pourquoi?
Parce que ça vous coupe le mental. Voilà. Et donc on avait deux personnes qui étaient banquières, on avait et eux-mêmes étaient surpris par ce qui était en train de se passer. Parce qu'à un moment donné, c'est plus moi qui devais parler, c'est la vouivre qui parlait. Et j'ai ma collaboratrice qui avait jamais vécu ça, qui me dit, mais je sentais dans mes jambes des vibrations. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement puissant.
Une énergie.
Une énergie.
Qui vient de la terre.
Qui vient de la terre.
Et de l'eau.
Et de l'eau. Voilà. Et donc quand on a perçu ça, on voit bien que les moines, ils sont pas intéressés à ça par hasard. Et ils ont utilisé les connaissances druidiques anciennes qui étaient là, parce que les druides connaissaient très très bien ça. Moi, je vous invite à lire Le Pape des Escargots de Henri Vincenot. Il faut absolument lire ça. Et ensuite, Les Étoiles de Compostelle. Parce qu'on voit véritablement une Bourgogne qui est totalement, en fait, qui vit ça. Voilà. Alors, il y a un paquet de gens, même en Bourgogne, qui ne le savent pas. Mais ils le vivent, ils ne le savent pas. Quand ils sont dans les vignes, ils vivent ça. Voilà. Et donc, les vins sont imprégnés de ça, évidemment, quand ils sont faits dans la Loire. Parce qu'il y a,
ces vins, ces parcelles, ces climats ont de cette vibration qui est la vibration de la vouivre, et dont vous dites que la vouivre, en effet, il faut la dompter, c'est aussi un peu la verticalisation de la Kundalini dans d'autres mythes, et donc il faut que redresser cette eau, et
voilà.
symboliquement redresser l'eau, c'est la vigne qui va donner, c'est l'eau qui va donner du vin, qui va transformer en vin.
Exactement. Et donc ça,
c'est... une verticalisation.
Voilà. Et en fait, quand vous goûtez...
Parce que la vouivre, elle rampe. Hein,
C'est un serpent. Et en fait, quand vous goûtez...
Comme la
vins,
vigne dont je vous lisez, vous écrivez dans votre livre, excusez-moi de vous couper.
Bien sûr.
Mais là, ça m'inspire ce que vous nous dites, avec cette vigne qui est comme l'enfant, hein, qui est le partisan du moindre effort avant d'avoir été éduqué, élevé, qui va se faufiler, monter, grimper les arbres pour aller chercher le soleil.
Exactement.
Au lieu de se verticaliser, parce que là, il n'a pas de racines, et il va falloir lui apprendre non seulement le nanisme, mais surtout l'obliger à s'ancrer, à s'enraciner.
À s'enraciner, voilà, parce que, si vous voulez, pour les druides, la vouivre est une vibration du noyau terrestre, et donc qui émerge. C'est comme les chamans qui considéraient qu'il y a certains endroits où qui sont des portes, si vous voulez, des portes de d'éveil. Moi, je vais faire le pic de Bucarac cet été. C'est pareil. C'est un lieu où les anciens allaient vivre une expérience mystique. Hein. Ce sont des portes, ce sont des lieux. Et la Bourgogne, c'est un lieu particulier. Et les moines ont réussi à traduire l'expression de la vouivre selon chaque endroit. Et là, c'est complètement fou. Parce que là, c'est l'humain qui va se dédier à percevoir la différence d'énergie d'un endroit à l'autre. Et la grande différence, et c'est pour ça que pendant la période très matérialiste des années 80, on n'aimait pas trop le Bourgogne. Alors en plus de ça, les désherbants étaient passés par là aussi. La Bourgogne, comme les autres régions, est passée là-dedans, est tombée dans cette facilité, et la vouivre ne vibrait plus. Mais en plus de ça, comme il y a une espèce de transparence, on ne comprenait pas les vins de Bourgogne, parce qu'il fallait de la matière. On était dans la matière.
On l'est toujours un peu.
Toujours. Mais si la Bourgogne en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui s'éveille. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parce que vous goûtez des vins dont la matière est en suspension, elle est portée par l'énergie. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un dont le corps est porté par l'énergie, ou quand vous rencontrez quelqu'un, le corps se porte tout seul. C'est pas la même personne. D'abord, il y en a un, il va être fatigant, parce qu'il va vous puiser de l'énergie, parce qu'il en a besoin. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé son énergie intérieure. Voilà. Là, c'est pareil, c'est des vins qui ont une énergie. Moi, j'ai des clients qui me racontent, ils me disent, mais depuis qu'on a goûté ces vins-là, mais on ne peut plus boire autre chose. On trouve tout très fatigant, parce que on a l'impression de pouvoir en boire déjà beaucoup plus, parce que évidemment, moi, c'est ce que je dis, j'ai mon médecin hier...
Toi, tu bois bien, mais tu n'es jamais fatigué, au contraire.
Exactement. Moi, j'ai mon médecin hier, parce que j'avais la petite visite tous les 5 ans, la petite révision, ouais. Il me fait faire des analyses de sang, il sait quel métier je fais, il sait quel vie j'ai. Il me dit, comment c'est possible,
pas de gamma GT,
des gamma GT de bébé...
Ça, j'ai du mal à le croire.
Voilà. Alors, j'ai des copains qui me disent, mais des fois, à table avec toi, on boit et tu bois même pas d'eau, etc. Et d'ailleurs, j'ai un voisin l'autre jour qui va à la messe tous les dimanches et me dit, mais tu te rends compte, mon frère a perdu 10 kilos en arrêtant le vin. Je dis, mais quel vin il buvait? Voilà, il buvait du vin lourd, il buvait des vins qui n'étaient pas portés par l'énergie. Et puis comment il les boit pas en les vivant. Hein, parce qu'il y a ça aussi, c'est à deux, ça se fait à deux, c'est comme l'amour. Donc si on ne boit pas le vin dans un accueil par notre esprit, hein, c'est la boisson de l'esprit. Donc on ne le boit pas avec le corps, on le boit avec l'esprit. Voilà, donc c'est une rencontre.
On passe du corps à l'esprit, en fait, il y a cette transformation.
Exactement.
Exactement, c'est les sept jarres, j'en reviens toujours à la mystique des noces de Cana du Christ, hein, qui débute son ministère. Il commence par ça, il y a ceux qui étaient de jeunes amants qui se marient, et puis évidemment les six jarres, ce vin un peu lourd dont tu parles, c'est le vin de l'éros, le vin érotique, charnel, et ce vin, évidemment, il n'a qu'un temps, et les outres sont vides, et la Vierge le dit, toi qui es le maître de maison, mon fils, il n'y a plus de vin, il sera la septième jarre, c'est ce que disent les mystiques, le Christ c'est la septième jarre, et il va, transformer l'eau en vin, et ce vin, aura une toute autre saveur, puisque on le sait, l'un des convives va dire, mais quel hôte es-tu qui donne le meilleur vin à la fin?
À la fin, exactement. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a puisé beaucoup là-dedans, parce que...
Bah, il y a correspondance entre ce que tu dis et ce que l'on peut lire
complètement,
dans les évangiles.
Complètement. Et ça, évidemment, pour revenir à l'histoire du temps long, les moines se sont donné le temps pour faire tout ça. Ils se sont donné le temps. Et c'est comme l'élevage d'un vin dans les barriques. C'est 18 mois minimum pour qu'il ait fini sa métabolisation. Parce qu'on ne peut pas le faire rapidement. Donc tout ça, entre le temps long du vin, mais le temps long de l'apprentissage. Je travaille avec un très grand vigneron que j'ai rencontré en 99, qui était très jeune à l'époque. Il venait d'arriver au domaine avec son père. Et il me racontait qu'à 23 ans, il s'est donné 20 ans pour commencer à toucher le terroir. Ben, on en est loin aujourd'hui, des gens comme ça. Et c'est ce qui manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vigneron arrive, et même les néo-vignerons, c'est assez drôle, ils vont à une vitesse dingue. En un an, ça y est, ils ont révolutionné. Ils savent faire du vin, et ça y est, ils font le plus grand vin du monde. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont oublié le chemin intérieur, le chemin nécessaire à eux-mêmes pour rencontrer la terre, pour vivre la terre, pour que cette terre, les profondeurs de cette terre, révèlent les forces. Mais là, ils ne peuvent pas, ils sont dans un égocentrisme où ils vont tout de suite trouver les eurekas nécessaire pour faire un vin de démonstration. Mais où est le vin de l'humilité là-dedans? Donc on est vraiment dans une scission totale. La Bourgogne aujourd'hui, il y a un certain nombre de vignerons, grâce peut-être à des gens, sans doute, comme Max Léglise dont je parlais tout à l'heure, cet homme qui dit c'est un vin qui n'existe pas, Aubert de Vilaine. La chance qu'il y a eu en Bourgogne, c'est qu'il y a toujours eu des gardiens du temple. C'est-à-dire que c'est une région qui a jamais basculé totalement. Cette vouivre nourrit les hommes de quelque chose qui est plus puissant qu'eux et qui finit par les dépasser. Moi, j'ai rencontré en Bourgogne, comme ailleurs, des gros bourrins. Et l'autre, là, ça fait deux fois en quatre mois que je rencontre des types que j'aimais pas trop. C'était des gens un peu vulgaires, grossiers. Ils faisaient des vins costaud parce qu'ils étaient dans la doxa de l'époque. Je les ai revus il y a très peu de temps, deux personnages qui étaient vraiment des symboles, parce que très marqués. J'ai découvert une finesse d'esprit, j'ai découvert chez eux, incroyable, et les vins qui avaient totalement changé. Il y a une humilité qui a été générée, et je me dis, cette Bourgogne, quand même, il y a un truc qui passe dans les hommes, qui est plus fort qu'eux et qui finit par tuer leur ego et qui les met dans cet état de servir. On a l'impression qu'ils sont au service de la Bourgogne d'un coup. Et moi, ça m'a vraiment surpris parce que c'est des personnages pour qui j'avais pas beaucoup de respect. Je me dis que c'est quand même cette région, elle est quand même dingue parce qu'il y a cette puissance qui est là. Et les gens que j'ai emmenés l'autre jour sur ce lieu et ensuite au Claude Vougeot, etc., ils sont transformés. Ils ont vécu quelque chose et je leur ai dit évidemment que là, c'est un voyage de deux jours, mais qu'ils peuvent y revenir. Ils veulent revenir sur les mêmes endroits. Et d'ailleurs, il y en a même un qui a pris une photo de moi pendant que je fais ce petit édito près de cet oratoire où ça l'a perturbé parce que c'est un type qui croit à rien. et qui me dit, et c'est lui qui me montre la photo tout timide le lendemain matin, comme un petit enfant, qui me dit, t'as vu ?
La lumière, oui.
Il y a une lumière, je crois que je t'ai montré la photo.
Oui, je l'ai vu.
C'est absolument impressionnant. Et c'est ce que je dis, c'est pas moi, c'est le lieu. C'est le lieu qui fait ça. Donc on est sur
toi, t'es conducteur. On est conducteur de la lumière.
Oui, ben, j'étais au service parce que j'avais ces sept personnes qui venaient vivre la Bourgogne. Ils ne savaient pas qu'on allait les faire passer par quelque chose d'aussi profond et d'aussi mystique. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient de rencontrer des grands vignerons, goûter des grands vins, ce qu'on a fait, évidemment. Il fallait l'épreuve, hein, parce que faut soutenir le propos. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très agréable. Voilà. Mais aussi, qu'ils vivent les lieux. Voilà. Et qu'ils découvrent que cette mythologie bourguignonne n'a pas été là par hasard. Et c'est pour ça que le mot terroir n'existant qu'en France, hein? Donc, enfin, maintenant, il est utilisé dans le monde entier, mais le mot terroir, il nous nourrit. Et c'est pour ça que quand on mange des aliments qui ont été faits, alors pas comme le vin, parce que le vin, c'est quelque chose de très particulier, mais malgré tout, si on a respecté l'aliment, on a respecté les plantes, on a respecté les animaux, etc., et qui vont nous nourrir, ils nourrissent notre pensée. Ils nourrissent notre conscience. Et on est aujourd'hui, pour revenir au temps court, on est aujourd'hui des gens qui ne vivent, ils soignent leur corps. Ils ne soignent pas leur âme. Donc ils essaient pas de, ils ne vivent pas une vie pour faire avancer leur âme. Ils vivent une vie pour être bien, dans le confort, le bien-être c'est le corps, hein, c'est en bonne santé, etc. Mais si l'esprit est très sain, le corps sera en bonne santé. Mais quand l'esprit est malade, il parle par le corps. Je crois que toi, t'es bien placé pour en parler avec Annick de Souzenel.
Ah, bien sûr, la symbolique du corps humain.
La symbolique du corps humain, etc. Et en fait, aujourd'hui...
Le maladie.
Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on a des gens... Alors, ils vont soigner leur corps à fond. Mais on est là pour... C'était Yard de Chardin qui disait... On n'est pas un corps qui vient faire une expérience spirituelle, on est une âme qui vient faire une expérience terrestre.
Tout à fait.
Donc c'est l'âme qui fait une expérience terrestre. Donc on vient grandir notre âme, on vient faire des expériences pour notre âme. Et là, il y a un vrai sujet, parce que c'est-à-dire qu'on prépare notre karma et notre non-karma. Alors que quand on est dans cette petite vie, en regardant du petit bout de la lorgnette, ça ne marche pas. Là, l'âme, elle est enfermée dans un corps qui veut vivre pour lui. Et les vins dont je parle, c'est des vins qui révèlent l'âme. C'est pas des vins qui sont là que pour nous faire plaisir.
Bien sûr. Séducteur en plus de ça. Avant la pause du Bobino, Bruno, vous êtes, je rappelle, chers auditeurs, dans ce florilège des arts avec Bruno Quenu, le propriétaire de la cave Filovino, auteur de l'ouvrage La vie mystérieuse du vin aux éditions du Cherche Midi. Et donc, nous traitons du temps long dans l'Occident et comment justement retrouver ce temps long alors qu'on est pris par ce temps très court aujourd'hui dans la modernité. J'ai envie, vous nous avez parlé des Clunisiens, des Cisterciens, des moines, de ceux qui ont conservé cette haute tradition. Quels sont les moines de demain ou d'aujourd'hui ?
Je crois que certains vignerons sont des moines.
Oui.
Dans certains métiers de l'artisanat, aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est plus... Frère Jean, d'ailleurs, cet ami qui est déjà venu ici, d'ailleurs.
Oh oui, cet ami, fois, oui, tout à fait. Orthodoxe. Le skit sainte foi dans les Cévennes.
Voilà, orthodoxe russe, qui a passé longtemps dans le désert.
Père Gerasim.
Voilà, considère que... Moi, un jour, il m'a dit, quand on s'est rencontrés, la liturgie ne parle plus obligatoirement à l'ensemble de la population. Et je pense que... Et donc, c'est pour ça qu'il avait créé une fondation d'artistes et artisans.
Saint-Martin, oui.
Voilà. Pour réenseigner le geste conscient. Et je crois que ça, aujourd'hui, il y a des artisans, des vignerons, voilà, des gens qui font leur travail avec cette dimension. C'est-à-dire, ils sont portés par quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes, plus grand que leur métier. C'est-à-dire que c'est Christiane Singer qui disait « Fais pas ton métier, fais ton verbe ». Et donc, c'est ça, en fait. C'est d'exprimer ce qu'on a à exprimer, quelque part, peu importe avec quel métier. Mais c'est de l'exprimer dans ce temps long. Hein, on ne se révèle pas par le temps court, hein, on se révèle par le temps long. C'est-à-dire d'avoir une vision à long terme. C'est-à-dire que c'est quoi mon âme? Qu'est-ce que mon âme est venue, qu'est-ce que je suis venu foutre en tant qu'âme sur Terre? Voilà. Et ben, aujourd'hui, c'est ça. Moi, quand je dis à un jeune sommelier, ben, tu veux faire quoi dans la vie, sommelier? Ben non, sommelier, c'est pour que tu deviennes toi. C'est pas pour que... Donc, grandis, utilise les gestes du métier, fondamentaux, l'amour du métier, l'amour de celui à qui tu partages, etc. Et à ce moment-là, tu vas grandir, toi. Mais c'est pas d'être juste un passeur dans le métier, un simple passeur. Il faut être, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux que ça.
Merci Bruno Queniou. On se retrouve, chers auditeurs, tout de suite après ce court bobino.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans le Florilège des Arts. Nous sommes en compagnie de Bruno Queniou, le propriétaire de Philo Vino, l'auteur de La vie mystérieuse du vin aux éditions du Cherche Midi, chevalier des arts et des lettres, fondateur du Lafayette Gourmet, aujourd'hui, eh bien, un auteur autant qu'un... c'est un fils de viticulteur, de vigneron, hein, vous êtes fils de vigneron, Bruno, oui. Et nous étions bien sur ce temps long, nous étions sur ceux qui pourraient demain être ou aujourd'hui les moines d'hier, les moines cisterciens, les moines clunisiens. Et mais ça allait au-delà de quelques métiers, c'est-à-dire que ces moines ont initié une véritable révolution. Ils ont vaincu, j'ai envie de dire, dans leur temps long, la dictature romaine du temps court. Vous le dites vous-même, ils revenaient aux Gaulois, aux druides. On rappelle quand même que 80% de la population des Gaulois a été massacrée par César, a été massacrée par les Romains.
Bien sûr.
Comme, en quelque sorte, nous sommes massacrés, nous avons été massacrés nous-mêmes par l'Empire du temps court, du temps extrêmement court. Les
Exactement.
États-Unis d'Amérique, on parlait de Parker dans le vin, mais c'est vrai, dans tout domaine. Alors, qui pourrait initier demain cette révolution du temps long dans ces vieux pays, ce cher et vieux pays qu'est la France?
Ah ben pour l'instant, ce vieux pays, il est très abîmé. Hein,
ouais.
Cette civilisation qui a été exceptionnelle, qui a fait rêver le monde entier. Je viens de voir les deux films, les deux opus sur De Gaulle là,
ouais,
au cinéma.
Ouais.
Moi, j'ai des copains qui n'étaient pas du tout dans cette vision.
La bataille de Gaulle.
Ils sont sortis avec des larmes, etc. Et j'ai mangé avec deux l'autre jour qui m'ont dit, mais la France, c'est ça, quoi. La France, c'est ça. Et je dis, c'est pour ça que quand on abîme la France aujourd'hui, que ça ne sert plus à rien de défendre la France, etc., on abîme les gens qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'on renie les gens qui ont fait ça. Et donc là, c'était sacrificiel. C'est les gens qui n'ont pas eu peur de la mort. Aujourd'hui, on n'a pas un seul homme politique qui va se lancer pour sauver la France en allant au sacrifice. Hein, quand on voit le maréchal Leclerc, les conditions...
Ils sont vendus à l'Empire, de toute façon.
Bien sûr, hein, exactement. Voilà. Mais parce que l'immédiateté, c'est le plaisir immédiat. C'est pas le bonheur. On leur vend pas du bonheur, on leur vend du plaisir immédiat. Et donc, c'est immédiat. Et en plus, avec le téléphone portable, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a l'IA. Hein, donc, alors là, on a l'impression qu'on a révolutionné, on a tout révolutionné. Pour moi, c'est un naufrage. C'est un naufrage de la conscience. C'est un naufrage de la conscience parce que c'est le temps ultra court et la conscience, c'est le temps long. Donc, les moines, ils ont apporté une... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont créé l'Europe. Ce que Rome n'a pas réussi à faire, ils l'ont fait. Avec une vision incroyable de la conscience du métier. Tout le compagnonnage. Le compagnonnage, les coteries vont être sur le modèle des moines. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que l'organisation des coteries, ça va être un modèle... tout simplement, qui est prise sur les monastères. Et donc, là aussi, le temps long, les coteries, l'apprentissage philosophique, l'apprentissage du métier, etc., va être pris sur le temps long. Tout ça, si aujourd'hui on a pu reconstruire la cathédrale, si on peut reconstruire des bâtiments sublimes, c'est parce qu'il y a encore des coteries de compagnons qui sont là. Heureusement, il y en a un peu dans toute l'Europe. Il y en a en Allemagne, il y en a en Roumanie, il y en a en Russie, hein, puisque c'est un pays où il y a des savoirs très importants. Et je pense que si vous voulez, quand vous avez des gens qui vivent dans des métiers qui n'ont aucun sens, des gens qui sont dans la finance, qui ne se rendent pas compte qu'ils détruisent des économies, total. Quand on sait qu'aujourd'hui, la masse d'argent déplacée, échangée, pour l'économique, c'est 3%. Donc même les échanges de pétrole, de gaz, des matières premières, du métal, de voitures vendues, du vin, de l'alimentation, etc., dans le monde, c'est 3% de l'échange de monnaie. C'est-à-dire que la finance a détruit l'économique. Voilà. Donc on est dans les mains de la finance
En un clic, hein, le transfert de fonds
exactement.
D'un compte à un
et
autre.
Et De Gaulle s'est remonté contre ça parce qu'il avait bien compris que c'était...
la bourse, l'économie,
voilà, exactement. Donc on joue au casino contre des gens qui travaillent. Contre des gens qui veulent manger. Parce que c'est ça en fait. Hein. C'est que les gens qui s'amusent aujourd'hui avec l'argent... qui est décorrélé du monde du travail, de l'économie, de la consommation, détruisent les populations. Donc, mais ils ne réfléchissent pas, parce qu'il n'y a pas de conscience. Ils ne réfléchissent pas. Ils disent, mais non, mais moi, je suis pour rien. J'ai cliqué, j'ai passé l'argent de temps à temps, enfin, l'action... de temps à temps, à un millième, mais il en a vendu tellement qu'il a fait d'un seul coup des bénéfices énormes. Et en fait, là, vous voyez qu'il y a des cargos complets de pétrole dans des coins qui attendent parce qu'ils sont sous placement. Donc évidemment, le pétrole ne baisse pas, le gasoil ne baisse pas. Le pétrole baisse, mais le gasoil ne baisse pas. L'essence ne baisse pas. Donc en fait, simplement parce que c'est de la finance. C'est la financiarisation jusqu'à vos pâtes. Le paquet de pâtes Panzani, il est financiarisé. Donc la petite dame qui fait ses courses, elle ne sait pas qu'elle consomme de la bourse. Donc elle consomme de la finance et pas des valeurs économiques du type café le blé, etc. Non, lui, il ne touche rien de tout ça. Voilà. Donc là, ça ne peut pas fonctionner longtemps. On ne sait pas quand est-ce que ça va se casser la figure. Il y a un moment donné, de toute façon, parce que les 3% d'économie, c'est ce qui permet à la finance de continuer d'exister. Parce que le jour où le 3% d'économie n'existe plus, il y a un moment donné, il y a un chouïa où ça ne passe plus. Mmh. Voilà. Donc, mais il y a encore trop peu de gens qui ont conscience de ça. Et ça, il va falloir que... Mais malheureusement, l'information immédiate...
Est-ce qu'il y a des métiers, est-ce qu'il y a des œuvres, quelque chose qui rappellerait justement ce travail, cette œuvre cistercienne?
Moi, je pense les bâtisseurs. Ouais. Il existe encore des bâtisseurs. Il existe encore des métiers où la paysannerie qui est très mal, très abîmée. Alors évidemment, elle est corrompue par le grand syndicat, la FNSEA. Quand on voit que le président de la FNSEA est un type qui n'est absolument pas paysan, qui a des terres, mais qui n'est absolument pas paysan. Donc les paysans qui sont encore à la FNSEA sont manipulés de façon invraisemblable. Contrairement, alors heureusement, il y a d'un côté la Confédération paysanne et la Coordination rurale, mais il y a les indépendants qui sont encore plus éveillés souvent, mais ça ne représente pas assez. Il va falloir à un moment donné que le monde paysan sorte des carcans et de cette complicité de la FNSEA avec le grand système financier mondial. Quand on voit le Mercosur, mais qui est en route depuis 25 ans, et tout ça va à l'encontre du temps long, puisque le temps long, c'est aussi de connaître un peu les produits qu'on mange. C'est pas on leur met des petites étiquettes derrière. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on consomme que local. Évidemment qu'on a envie de manger de temps en temps une banane ou un avocat. Mais plus vous connaissez la source de vos produits, plus vous êtes conscient. Hein? Plus vous êtes conscient. Et il ne faut pas s'étonner si on est obligé de faire des normes de partout, etc., parce qu'on est dans des produits industriels qui sont déracinés. Et donc, il faut qu'il y ait une étiquette derrière. Mais donc, vous ne savez pas ce que vous mangez. Ce qui compte, c'est justement d'être de plus en plus conscient de ce qu'on mange, de qu'est-ce qu'on consomme, l'eau qu'on consomme. Tout ça a une importance sur la conscience. On ne peut pas s'éveiller en consommant du non-conscient. Hein? Donc, c'est fondamental. Le temps long, aujourd'hui, il y a des vidéos qui durent 45 secondes. Moi, je suis impressionné par ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Moi, quand j'ai découvert Radio Courtoisie, il y a une bonne trentaine d'années, il y a eu une période où j'ai un peu moins écouté parce que le monsieur de l'Esquin m'agaçait au plus haut point, mais qui avait dévié pour moi Radio Courtoisie. Mais Radio Courtoisie, c'était la découverte d'une radio qui faisait des émissions longues, qui faisait parler les invités, faire un travail en profondeur, et c'est pas du blabla d'une information balancée en seconde. Parce que si vous regardez le journal sur BFM ou de France Info ou machin, en fait, si vous enregistrez 3-4 journaux d'il y a 40 ans, c'est à peu près les mêmes. Hein. Donc en fait, il n'y a rien qui va vous éveiller. Alors que quand on lit des dossiers, moi j'ai toujours été abonné à des lettres de gens qui, des géopoliticiens, des gens qui avaient une vision un peu décalée, et ben on apprend des choses, et puis le temps de lire, et puis lire des livres, avec des opinions différentes, des angles différents, ça, parce que on digère un livre. Le temps qu'on le lit, il y a une digestion qui se fait. Comment on peut pas y avoir de digestion sur une vidéo de 45 secondes?
Non.
Voilà. Donc je pense que y a des métiers, comme je disais, voilà, les bâtisseurs, les paysans, des artisans, qui reviennent à des valeurs fondamentales. Là, j'ai appris l'autre jour un truc incroyable, c'est que les newsletters envoyés en mailing à des millions d'exemplaires sur une certaine catégorie de la population, et ils sont systématiquement effacés et jamais lus. Et donc, il y a des gens qui reviennent au mailing papier. Parce que là, on lit.
Eh oui.
Voilà. Donc, là, vous voyez, je ne sais pas si tu es au courant de ce qui s'est passé en Belgique, la fameuse agence qui travaille sur la sécurité routière et qui met des notes sur les véhicules en fonction de leur sécurité. Sécurité passive, sécurité active. Et là, ils viennent de baisser les notes des véhicules comme les Tesla, qui n'ont que de l'écran. Parce qu'on s'est rendu compte que quelqu'un qui conduit et qui est obligé de gérer par écran a un niveau de conscience, de réactivité dans la voiture qui est inférieur à quelqu'un qui est sous alcoolémie élevée.
Ah oui.
Voilà. Donc, il est dangereux. Donc, on va revenir au bouton. On va revenir au bouton, aux manettes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de quitter les yeux du pare-brise. Donc ça, c'est intéressant. Alors que sur les journaux automobiles, les critiques, s'il n'y avait pas un grand écran dans la voiture, c'était une voiture ringarde. Voilà. Donc ça montre que on s'est plongé là-dedans sans sans conscience, sans réfléchir. C'est des modes. Et d'un seul coup, il faut un écran. Parce qu'on est dans le monde de l'écran.
Et oui.
Et là, les enfants, maintenant, on commence à dire, oh là là, les enfants, le moins d'écran possible, on commence... Heureusement qu'il y a des parents qui commencent à leur payer des jouets, des cubes, des machins. Parce que tout ça est nécessaire, c'est les visions dans l'espace. C'est une vision à plat, l'écran. Hein. Il n'y a pas de vision dans l'espace. Hein. Et pour la conscience d'un enfant, c'est fondamental. Donc, tout ça, tout doucement, il y a des réactions. Alors, je ne dis pas qu'il faut être complètement opposé, encore une fois. Il faut toujours... mais il y a toujours quelque chose à prendre là-dedans. Mais il faut être très mesuré.
Et oui, alors après, on peut réellement se poser la question de savoir ce qui sera peut-être bien le renouveau ou les révolutions de demain. Pour ce que je trouve troublant, tu nous as parlé finalement de la vigne et aussi des compagnons, des bâtisseurs. Mmh. Hein, les bâtisseurs, bien sûr, les cathédrales.
Ouais.
Et donc des constructions en pierre. Ce qui est étonnant, c'est que nos ancêtres, les Gaulois, et je suis très attaché à cette représentation de nos ancêtres, les Gaulois, posaient des tabous sur la culture de la vigne et sur les constructions en pierre. Les constructions étaient des constructions en bois chez les Gaulois. Mmh. Comme si, quelque part, ils tenaient dans l'interdit quelque chose, mais parce qu'il fallait qu'il se réalise à un moment donné, plus tardivement. Et je me dis que de cette civilisation dont on est issu et dont il nous faut retrouver aujourd'hui, se redécouvrir gaulois, eh bien il y a certainement encore des trésors inexplorés, inexploités,
ouais,
pour la France de demain. Je ne sais pas dans quel domaine, j'avoue que j'ai... là c'est la nuit noire pour moi, mais... je me dis qu'en termes de prospective, il y a quelque chose. Alors peut-être est-ce lié à la géopolitique aussi, parce que il y a la France, elle est jetée dans le chaos du monde, mais en même temps, la France, elle est, Bruno, confrontée à des puissances qui sont dans le temps long. C'est l'Occident qui est dans le temps court, et on le dit suffisamment.
Bien sûr, bien sûr.
La Chine, elle est dans le temps long. La, oui, Russie, l'Orient, l'Extrême-Orient, ils sont dans le temps long.
Bien
la
sûr.
Russie, elle est dans le temps long. C'est nous qui sommes dans un temps très court. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit entrer en résonance à nouveau entre cette France, qui est un, que j'appelle pays civilisation, avec les autres civilisations du monde qui ont, elles, le temps long?
Je pense que c'est... Bon, si on regarde la 4ème République, on était dans le temps court. Hein, parce que c'est vraiment l'esprit partisan, les partis politiques, etc., que De Gaulle, notamment, a combattu. Lui, il défendait l'idée qu'il fallait se rapprocher.
De Gaulle était dans le temps long.
Il était dans le temps long.
Les programmes, les grands projets, voilà. Airbus, les centrales
nucléaires. Le rapprochement avec l'URSS, etc., alors, avec
aussi,
le pacte de Varsovie.
La Russie.
Etc. La Russie. Donc, c'est ça la différence. C'est que là, nous, on est rentré dans... On est des... Non seulement on est dans le temps court de l'Occident, mais on est des vassaux de l'esprit américain. Je ne dis pas du peuple américain. Attention, hein, je fais une différence. C'est-à-dire que derrière l'esprit américain, il y a les banques mondiales, il y a la finance, il y a une volonté d'hégémonie, de puissance.
Tu sais ce que disait De Gaulle au moment de la décolonisation? Il disait, voilà, on a donné l'indépendance à tous ces pays africains, par exemple. On a fait la décolonisation. Il nous manque une décolonisation, c'est la décolonisation de nous-mêmes. Nous décolonisons nous.
Exactement. Mais il avait totalement raison. Moi, je pense que quand on voit, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Robert Parker. Comment est-ce qu'on a pu accepter nos vignerons, nos propriétaires bordelais en premier, accepter et vanter leur vin par la note de Parker? Donc, on ne parlait plus du travail qui avait été réalisé. On ne parlait plus du terroir, on parlait de la note de Parker. C'est les grands châteaux bordelais qui ont fait la cote de Robert Parker. C'est complètement fou. Et c'est là où on voit qu'on est colonisé. On s'est colonisé. Parce qu'on est à la botte de ces gens-là, on les admire. De Gaulle écrivait des lettres à ses ministres quand il voyait des termes en anglais. Il disait, mais vous retirez ça tout de suite. Voilà. Les gens ne sont pas choqués. Mais je dis, mais notre civilisation, elle est liée à notre langue. Notre langue, c'est de l'esprit. Elle a un esprit. toutes les langues ont un esprit. Je ne dis pas qu'elle est meilleure que les autres, mais c'est notre langue. C'est celle qu'il faut qu'on utilise. Alors, ça n'empêche pas d'utiliser l'anglais. Mais quand on est en France et qu'on parle entre français, parlons français, écrivons français. Pourquoi on perd l'écriture, là? Mais c'est à une vitesse absolument invraisemblable. Mais parce que, tout simplement, mais on perd la langue. Notre langue, c'est une langue écrite dans laquelle, dans les mots, il y a de l'esprit. Il y a, prenez le mot connaissance, connaissance, naissance avec, et connaître l'essence. Donc derrière, la langue des oiseaux qui est dans cette langue est incroyable. Donc on est en train de se piétiner. Voilà. Et donc là, j'aime beaucoup, j'ai écouté une vidéo de Montebourg là, qui parle du souverainisme. Donc, il est plus souverainiste aujourd'hui que plein même d'extrême droite. Mmh. Parce qu'en fait, il dit, mais sinon, il n'y a pas le choix. Et il parlait du livre de Jean-Louis Debré, qui est L'éloge des frontières. Il faudrait qu'on reparle de ça. C'est des gens qui étaient quand même avec des courants plutôt à gauche et qui défendaient les frontières en disant, mais sans les frontières, on est ballotté dans tout et on ne peut pas réfléchir puisqu'on est, on est pris dans le mouvement et on sait que le mouvement, qui c'est qu'il mène aujourd'hui? Alors il le mène un peu moins fortement parce qu'il y a aujourd'hui, comme tu disais, des pays qui sont dans le temps long, énorme, la Russie, en plus qui résiste aux puissances américaines.
Pensons
la Chine,
à l'Iran aujourd'hui qui a résisté à ces Américains qui ont 250 ans, et là on a une civilisation qui en a 5000.
Voilà. Et ça, mais même si on soutient pas le régime des mollahs, pays c'est le pays, et ils ont voulu changer le pays. Non, c'est un peuple, un peuple doit décider de son avenir et d'enquêter son passé lui-même. Hein? Donc, sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est pris.
Je pense en tous les cas que nous retrouverons les trésors de notre civilisation, d'une antique civilisation qui est née même encore avant le baptême de Clovis, qui est née avec les Gaulois, justement, qui a au moins 3000 ans, cette civilisation qui est la nôtre, justement en rapport et avec les autres, parce que sans mettre un grand A à autre, mais on parle du vin, on parle des bâtisseurs de la pierre. Les bâtisseurs de pierre, eh bien, ils ont été dans toute l'Europe.
Oui.
Le vin, c'est mondial.
C'est mondial.
Je pense que c'est aussi, nous nous redécouvrirons, Gaulois, Français, dans notre identité, dans notre enracinement, avec le rapport à l'autre et à ces civilisations qui, elles, eh bien, assument ce temps long.
Oui, puis on nous a... notre histoire, elle a été, à l'école, elle a été complètement bousillée, parce que on a l'impression qu'avant la Révolution française, il ne s'est rien passé. Quand on prend, par exemple, le vase de Vix à Châtillon-sur-Seine, on est sur une tombe d'une princesse pré-gauloise de 3000 ans. Et avec ce vase grec qui est là.
Et oui, parce que évidemment, il y avait entre les Grecs et les Gaulois un rapport particulier. Et c'est en revisitant cela qu'on a pu s'extraire de la domination, de la colonisation romaine.
Exactement.
Par ce rapport aux Grecs, tu as parfaitement raison.
Et donc, quand on voit ça...
On ne sait pas d'ailleurs comment ont collaboré les Grecs, la Grèce antique et les Gaulois, mais on sait qu'il y a eu un rapport.
Exactement. Beaucoup et quand on voit ce vase dans cette tombe, la tombe a 3000 ans, donc on se dit, un vase grec, on sait aujourd'hui qu'il est grec, c'est un vase qui fait à peu près 1 mètre cube, hein, quand même, c'est gros, hein, c'est un énorme vase, et c'est marrant, le chariot avec les ossements du voyage, donc du voyage de l'âme. On retrouve la barque égyptienne, des tombeaux égyptiens, etc. Donc on est bien dans une civilisation qui est beaucoup plus avancée sur le plan de la conscience spirituelle que ce qu'on a bien voulu nous dire. On n'était pas chez les sauvages du tout. Donc on a le disque de Debra retrouvé en Allemagne à l'époque où c'était celte aussi, le disque de Debra, qui est aujourd'hui qui est à peu près évalué à 3600 ans, dans lequel il y a une mathématique d'un niveau, les dessins, les calculs qui sont dedans sont d'un niveau de mathématiques équivalent à Pythagore. Hein. Donc voilà.
On pense en fait même que Pythagore est disciple des druides. Certains le pensent. Imagine.
Alors, quand on lit les escargots, Vincenot étant un personnage extrêmement inspiré, lui, il dit à l'arrivée des premiers moines chrétiens, avant que l'Église raye le druidisme, ils ont accueilli l'amour dans la connaissance. Et d'ailleurs, il reste quelques menhirs, notamment en Bourgogne.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'amour dans la connaissance?
C'est-à-dire que les druides avaient la connaissance, mais cette connaissance, d'un seul coup, elle était chapeautée par l'arrivée de ce message du Christ, qu'est l'amour. Et donc, ils ont fusionné, en fait. Et il y a quelques menhirs qui restent, mais malheureusement, l'Église en a nettoyé ça pour faire disparaître ça. Vous prenez à Charcuble, près de Chapez, dans le Mâconnais, il reste encore un menhir avec la croix taillée dedans. C'est-à-dire qu'ils ont taillé, les druides, ils ont taillé des croix chrétiennes dans la masse du menhir, en haut du menhir. Donc c'est un menhir qui fait à peu près 5-6 mètres de haut. Il est dans un pré, on le voit de la route. Hein. Quand on va de Chapez à Tournu, et vous le voyez, on le voit, il est sur la gauche là, et il y a une croix taillée dans la masse du menhir. Voilà. Et il y en a eu beaucoup. Mais oui. Après, elles ont été retirées parce qu'il fallait faire... on ne pouvait pas lier... le Christ avec les menhirs. Voilà.
Mais alors que là, c'était une sorte de couronnement.
C'était un couronnement. C'est l'amour qui trône sur la connaissance. Donc les druides avaient une connaissance de l'univers, des lois de l'univers, etc. Et d'un seul coup, il y avait la fréquence amour. Voilà. Donc ça, c'est notre civilisation. Voilà.
Oui.
On peut pas. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a encore des églises où les bâtisseurs. Vous prenez, je crois que c'est Saint-Pierre-sur-Dive, où il y a un grand horoscope, un grand en plein milieu de l'église. On dit, les druides étaient évidemment complètement là-dedans. Hein, l'astrologie, l'astronomie, etc.
Oui, bien sûr.
Comme les Grecs, comme Pythagore, etc. Et on se dit, dans les églises, il y a des bâtisseurs qui ont mis ça parce que... Alors, on dit que, par exemple, Saint Thibault, le grand Saint Thibault, n'a jamais été saint. Hein, il n'a jamais été canonisé. On l'appelle saint. Et en fait, il était druide, au départ. Oui. Il est devenu moine. Donc, il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle « Druide ou moine ».
Ah.
Qui est absolument magnifique. J'en ai un exemplaire, je pourrais te le prêter.
Ah, avec plaisir.
C'est un livre incroyable. Et on voit bien, et notamment en Bourgogne, qu'il y a eu une énorme fusion à un moment donné.
C'est
ça. Parce qu'il n'y avait pas de dichotomie. Et puis, dans ce qu'on appelle le Grand Barda, c'est-à-dire la Bible druidique, il y a l'idée que... je crois que c'est Riamond qui enfantera Priméry, et que Priméry, cet homme de lumière, sera tué par les hommes. Donc, il y avait un mythe qui, en fait, préexistait avant la mort du Christ.
Et puis, il y a aussi le mythe chez les druides d'une vierge qui enfantera. Hein.
C'est ça. C'est la vierge Riamond qui va enfantrer Priméry.
C'est ça.
Et donc, en fait, cet homme sera tellement différent qu'on finira par en avoir sa peau. Et donc, en fait, le mythe existe. Donc, évidemment qu'ils ont accueilli ça avec, pour eux, extrêmement bienveillance.
Et oui. Ah non, voilà. Mais c'est certain.
Et donc, les premiers moines et les anciens druides vont fusionner au départ. Il n'y a pas de problème. C'est qu'à partir du moment où l'institution romaine va prendre le dessus, alors elle ne va pas du tout voir ça d'un bon œil, parce que la connaissance et l'amour, ça permet d'être dans une lecture plus initiatique. Et donc, mystique de soi-même, pour grandir soi-même, et puis prendre le message en aimant la personne, mais en disant je vais bosser sur moi.
Et puis en prenant ce message de l'intérieur et non venant de l'extérieur. Exactement. Comme un ordre donné, bien sûr. Eh bien, il reste, voilà, je vois Claudia qui me fait signe qu'il n'y a plus beaucoup de temps hein, dans cette seconde émission de notre trilogie, mon cher Bruno, dans ce Florilège des Arts, deuxième émission qui s'achève.
Merci à toi.
Il nous en reste encore une, on est content.
Oui, oui, oui.
J'ai eu cette impression de frustration suite à l'émission d'actualité du vin au début de l'été, en me disant on avait tellement encore de choses à dire.
C'est vrai.
Je me suis dit, ça vaut la peine d'en faire, allez, trois de plus.
C'est vrai. Tout à fait.
Merci. Bien encore un petit pour
Merci.
La route.
Merci. Je suis généreux.
Voilà. Il est plein de générosité, notre ami Bruno Quenu, des caves Filovino, fondateur des caves Filovino à la Trinité, auteur de La vie mystérieuse du vin aux éditions du Cherche Midi, livre que je ne saurais trop vous conseiller. Voilà. Eh bien, écoutez, passez une excellente journée et je vous dis à dans deux semaines, toujours avec Bruno Quenu. Merci.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts dirigé par Nicolas Stocker, émission préenregistrée le 28 juillet 2026, diffusée vendredi 4 septembre de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.